Productrice et producteur de sens.
Une émission dans laquelle nous mettons en avant les exploitations locales qui luttent contre les productions industrielles des plus grands.
Techniques anciennes ou innovantes.
Méthodes parfois peu banales.
Mais on ne peut plus éthique et plus locale.
Leur passion avant tout.
Dans le respect du vivant.
Un portrait chaque mois, diffusé le vendredi à 17h une semaine sur deux.
Et le dimanche à 11h une semaine sur deux.
Bonjour Marie.
Bonjour.
On est chez toi, Dry Lane.
Oui, exactement.
Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous faire une petite carte postale de ce que c'est que Dry Lane ?
Alors, moi, je suis Marie, je suis originaire de Normandie. Je suis en Lozère depuis 2007. Je suis venue pour faire une formation agricole à Supagro. Et j'ai toujours eu envie de travailler avec des animaux. Mais j'ai pas mal fait de choses très différentes qui n'avaient aucun rapport. Voilà. Mais bon, voilà, le parcours de vie fait que finalement, j'y suis arrivée, tant bien que mal. Et donc, ça fait 3 ans maintenant que j'ai des chèvres, 2 ans que je suis officiellement installée en tant qu'agricultrice auprès de la MSA. Enfin, voilà. Et alors, Dry Lane, c'est le nom que j'ai décidé de donner à mon travail, parce qu'en fait, les dry, c'est les chemins de transhumance. Et la laine, c'est parce que j'aime valoriser toutes les laines, pas que celles de mes chèvres angora, qui, elles, fabriquent du mohair et non pas de la laine. La laine, c'est vraiment pour les brebis. Mais voilà, j'ai à cœur de travailler avec d'autres gens au niveau local, donc notamment Régis qui a des alpagas, des éleveurs de brebis mérino, c'est un peu plus loin dans le Gard. Et pourquoi pas un jour des lapins angora, enfin voilà, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est, laine, c'est pour le côté multiple.
Alors, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi quand tu as monté cette aventure ? D'ailleurs, est-ce que c'était un pari fou ? À ce moment-là, tu t'es dit « j'y arriverai jamais » ou alors ?
Mais je me le dis encore que j'y arriverai jamais, tous les jours.
Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur ?
En fait, je devais... Enfin bon, voilà, ça a toujours été un peu un rêve, un fantasme d'avoir des petites chèvres dans la montagne. J'ai beaucoup regardé Manon des Sources avant. Et après, la réalité, bah, c'est que pour faire de l'élevage, il faut du terrain. Donc voilà, soit on a des fonds nécessaires pour racheter une entreprise agricole à quelqu'un qui part à la retraite et qui cède ses bâtiments, ses terres et voilà. Et ce que je n'avais pas, soit on a d'autres possibilités, et donc j'ai essayé de m'associer en GEC avec un éleveur Aubrac dans le coin. Donc on a travaillé pendant 1 an et demi ensemble, 1 an et demi, presque 2 ans. On a eu pas mal de difficultés. Comme toute association, hein, forcément, c'est pas évident. On n'a pas réussi à tout démêler. Donc, je suis repartie.
Parce que démêler la laine, c'est jamais évident.
Non, déjà, c'est hyper dur quand tu fais le tri de la laine. Mais voilà, et démêler les relations humaines, c'est pas forcément évident non plus. Et il y avait beaucoup de différences. Enfin, c'était pas forcément équilibré dans les rapports entre quelqu'un qui a beaucoup de terres, qui a beaucoup de connaissances, que moi je n'avais pas du tout, hein. Je suis pas issue du monde agricole et j'ai pas fait de formation vraiment agricole. Donc voilà, ça mettait quand même beaucoup d'obstacles sur notre parcours et on a tenté, hein, l'un comme l'autre, parce qu'on avait envie, mais on n'a pas réussi. Alors bon, c'est comme ça, l'histoire s'écrit comme ça et voilà. Donc en 2022, on a arrêté ce projet de GAEC et je me suis installée toute seule. Mais je me suis installée toute seule, avec des animaux, mais toujours sans ça, parce que j'avais pas résolu mon problème de terrain et de bâtiment et tout. Donc j'ai mes voisins qui m'ont filé un coup de main et qui continuent à me filer un coup de main parce qu'ils me mettent un bâtiment à disposition. Donc ça, c'est super chouette. Et les propriétaires de la maison dans laquelle je suis en location ont une parcelle autour qui m'ont aussi, pareil, mis à disposition. Mais c'est pas vraiment suffisant. Donc en fait, petit à petit, j'ai réussi à trouver des gens qui ont bien voulu me laisser du terrain. Donc des gens qui ne sont pas du tout du monde agricole et d'autres personnes, toujours comme Régis, hein, qui a des alpagas à Racoul, qui m'a laissé des terres. Et ça, c'est super chouette. Mmh. Voilà.
Alors aujourd'hui, tu as un troupeau de combien de bêtes ?
J'ai 50 chèvres. Mmh.
Mmh. Et donc, en termes de quantité de laine que ça produit par... C'est quoi, c'est par an ou...
C'est par an. Il y a 2 tondes par an. Et en moyenne, on va dire que c'est aux alentours de 3 kilos, 4 kilos par animal. Enfin, si on compte des petits, on va plutôt dire 3 en moyenne, du coup. Et donc, ça me fait à peu près 150 kilos de laine par an. Mmh.
Comment ça se passe, justement, pour la tonte ? Tu fais appel à des personnes spécialisées ? Est-ce que c'est fait... on parle d'éthique, hein, justement. Mmh. Comment ça se passe ?
Alors, c'est... jusqu'à présent, c'était une personne, Laura, une tondeuse, qui venait me tondre les chèvres que j'avais rencontrées avant de m'installer, même, justement, à un chantier tonte. Et puis là, elle a arrêté. Donc maintenant, c'est 2 autres tondeurs qui sont plus habitués aux brebis. Et ça fait 2 fois... Donc l'été dernier et cet hiver où ils sont venus avec Laura pour se former sur la tonte des chèvres en bois. Et la semaine prochaine, là, ils viennent en solo, quoi.
Voilà. On peut avoir leur prénom ?
Et leur prénom, c'est Pépé et Julien.
Voilà. Qu'on salue, évidemment. Salut Pépé et Julien, je me doutais un petit peu que c'était, puisque c'est vrai qu'ils font ça beaucoup dans la région et c'est très bien. Alors après, une fois que les chèvres sont tondues, comment ça se passe pour la transformation justement ?
Alors déjà, elles sont tondues 2 fois par an, oui. À la différence de plein d'autres animaux qui, eux, sont tondus plutôt une fois par an.
C'est la spécificité des angoras ?
Et oui, parce qu'en fait, la fibre, elle pousse quand même assez vite, à peu près 2 cm par mois. Donc au bout de 12 mois, on a une fibre qui est aux alentours de 12 cm. Et donc en général, on fait ça une fois en hiver, une fois en été. Bon, ça c'est par rapport aux dates d'apport, parce qu'on est un collectif d'éleveurs. Et en fait, une fois tondu, on trie notre laine, chacun chez nous, suivant différentes catégories, de la plus fine à la plus épaisse, on va dire. Parce que chaque catégorie de laine a... un aspect spécifique, mais permet d'être valorisé. En fait, il n'y a rien qui est jeté. Et du coup, donc voilà, on fait différents lots de laine et on apporte notre laine en mars et en septembre à Castres. Et on le fait de façon collective parce que ça nous permet forcément d'avoir des coûts de transformation qui sont moins chers. Et en plus, c'est géré d'une façon uniforme et c'est beaucoup plus simple aussi dans les rapports avec les transformateurs.
Mmh. Quand tu dis uniforme, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais un peu de fil à part. Et c'est moi qui dois m'occuper d'aller faire laver ma laine à tel endroit, ouais. De la récupérer, après de l'envoyer à la filature. Etc. Là, tout est fait. On amène notre laine triée et après, toutes les étapes du lavage jusqu'au retour en fil, tout est fait, collectivement. Donc, il y a une seule personne qui gère ça. Quoi.
Et après, je suppose qu'il y a l'étape de la teinture ? Comment ça se passe ?
Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a la partie transformation pour faire des produits finis, donc des bonnets, des écharpes, des pulls, tout ça. Donc là, je travaille avec le collectif d'éleveurs. Donc là, il y a le lavage, le cardage, la transformation en fil, l'étape de teinture, puis l'étape de tricotage. Après ça, je récupère mes articles. Et il y a une autre partie où je demande que le fil. Mmh. Donc je récupère mon fil en forme de cône non teint. Et là, après, moi, je fais de la teinture végétale sur le fil. Et puis il y a une dernière partie où là, je garde une partie de ma laine et je fais transformer avec Régis, donc les alpagas, et avec un autre éleveur de brebis mérinos, où là, on mélange nos laines et pareil, on fait un fil à tricoter et on fait de la teinture végétale derrière.
Alors justement, moi je suis novice et je n'y connais rien. C'est quoi de la teinture végétale ?
Alors là, en fait, nos vêtements. comment nos vêtements ont des couleurs ? C'est de la teinture chimique. Donc c'est issu quand même du pétrole. C'est pas très sain ni pour l'environnement ni pour notre santé parce qu'on porte ça à même la peau toute la journée. La teinture végétale, c'est donc des végétaux qui sont soit produits localement, soit qui viennent de plus loin et que j'achète à un fournisseur en France, en Bretagne, qui est un maître des couleurs, Michel Garcia, grand teinturier. Et, Mais du coup, la teinture végétale, c'est un peu plus long comme procédé, par contre. Il y a l'extraction de la couleur, la teinture à proprement parler, le mordansage pour faire bien tenir la couleur sur le fil. Et voilà, et c'est plusieurs étapes.
Et oui, pour pas que ça déteigne au lavage, par exemple.
Oui, alors après, il y a des teintures qui sont considérées comme grand teint, d'autres comme petit teint. Donc, il y a des teintures beaucoup plus solides que d'autres. On peut teindre avec plein de choses, mais il y a des choses qui sont très fugaces aussi. Mais bon, c'est un peu un petit côté magique aussi.
Est-ce que justement, parce qu'on comprend que le procédé est quand même assez long, hein, pour que ça parte de la chair jusqu'à ce que ça devienne ce fil à tricoter, donc tout ça représente un coût. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va, t'arrives à en vivre, est-ce que ça commence à aller ou c'est encore compliqué ?
C'est encore compliqué, j'ai un autre boulot à côté. Je fais le transport scolaire à l'école du Pont de Montvert. C'est compliqué parce que ouais, c'est des grosses charges au niveau transformation, que c'est pas possible de le gérer seul en fait, parce que 150 kg de laine, c'est énorme, et qu'en plus c'est un autre boulot. Enfin voilà, c'est des savoir-faire, c'est aussi des machines. Et... Donc oui, il y a beaucoup de frais autour, je suis à l'équilibre.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Justement, bon, je ne peux pas passer à côté de cette question. Le loup pas découvert, mais en tout cas, des traces de loup. Et il y a le loup est en Lozère. Est-ce que ça te fait peur, toi, ou est-ce que finalement, avec 50 têtes de bétail, ça va aller, tu peux gérer cette crainte et ce stress peut-être?
Non, en plus on est bien en zone. Enfin voilà, on a comment dire. Le berger qui est derrière chez nous là, à l'eau barrée, il a quand même énormément de prédation tous les étés sur le troupeau qu'il garde. Comment dire. C'est un peu non, bah j'ai pas envie d'avoir forcément de la prédation comme n'importe quel éleveur. J'essaye de faire en sorte. De pas être impacté en essayant de en les enfermant la nuit, mais bon ça c'est parce que j'en ai un peu la possibilité. Après là quand je les mets l'été à racoule, j'en ai pas spécialement la possibilité. De toute façon c'est soit on les garde enfermés en permanence et on les nourrit toute l'année au foin, soit elles sont dehors, soit il n'y a plus de loups et ça c'est pas non plus spécialement possible. Donc
tu composes en tout cas.
On n'a pas trop le choix. Après, le jour où j'aurai une attaque sur mon troupeau, que ça soit un loup ou un chien ou quoi que ce soit, je serai dégoûtée et je serai en colère. Et bon, contre un chien, il y a un propriétaire. Voilà, on peut se retourner contre loup, c'est différent. Enfin, j'ai pas envie. Voilà. Comme n'importe qui, j'ai pas envie d'avoir de la prédation. Après, il est là.
Parlons un peu du caractère de tes chèvres. Est-ce qu'elles ont chacun un caractère? Est-ce que c'est un peu rigolo? Il y a plein d'agriculteurs, agricultrices qui me disent « Ah, celle-là, elle est cabotine, celle-là, elle est espiègle. » Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que tu remarques des choses comme ça? Ou alors...
Oui, de toute façon, je pense qu'à partir de... Enfin, chaque être vivant a son caractère et ses spécificités. Quand on ne connaît pas, quand on est juste de passage, on va voir un espèce de troupeau, une masse. Et puis il suffit de passer un peu de temps avec ces animaux et voir que chacun a son caractère. Il y a les chieurs, il y a les sympas, il y a les timides, il y a les complètement siphonnés, il y a... Enfin voilà. Et puis c'est souvent... ça se transmet. Voilà. La mère un peu craintive, forcément, elle va transmettre ça dans son comportement à son petit.
Parlons-en, toi, la reproduction, comment ça se passe ici ?
Eh ben moi, j'ai un bouc que je vais changer cette année, d'ailleurs, que je vais revendre pour en acheter un autre. Mais voilà, donc j'ai mon bouc qui saillit, un petit lot de femelles. Je ne fais pas beaucoup de reproduction. En général, je les fais saillir une année sur deux. Parce que ça a quand même pas mal d'impact sur la pousse de la fibre, ce qui est normal, hein, parce que c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie pour faire pousser de la fibre et autant d'énergie pour élever un chevreau. Ils ne sont pas sevrés, en plus, ils restent avec leur mère jusqu'à ce qu'ils se sèvrent naturellement. Donc voilà, les saillies, c'est en octobre, les mises bas au printemps.
Génial, c'est passionnant comme monde quand même. Tes produits, on peut les retrouver où? Comment ça se passe?
Alors, on peut les retrouver bientôt dans une boutique éphémère au Pont de Montvert. Voilà, c'est une grande nouveauté. On est 5 producteurs artisans à avoir eu cette idée. Et donc, juillet, août, au Pont de Montvert, il y aura notre boutique ouverte tous les jours. Donc, il y a du cuir, du bois, de la laine et du tissage. Et puis, sur mon site internet, j'ai un site qui s'appelle drylaine.com. Voilà, c'est assez facile. Il y a tous les produits, le fil à tricoter, les articles déjà tricotés. Et après, je fais des salons spécifiques, donc loin pour le fil à tricoter. Et tous les marchés de Noël que je peux faire dans le coin.
Forcément. Et justement, ça va fonctionner comme pourrait fonctionner une boutique paysanne, c'est-à-dire que vous allez vous relayer dans cette boutique, ça va être ce fonctionnement-là.
Ouais, c'est ça, on va faire des permanences, donc on a défini un nombre de jours chacun, et voilà. Pour l'instant, on a encore à monter les étagères et refaire l'électricité du local, et voilà.
Alors, constituer un peu, ce sera où au Pont de Montvert ?
C'est dans la Grande Rue. La Grande Rue, qui est une petite rue piétonne, qui est un local où il y a eu une pharmacie, une librairie, et voilà, qui était déjà un commerce auparavant. Donc, jolie petite rue passante, juste derrière les commerces qui sont situés sur le quai.
Génial. Et ça, vous louez aussi les 2 mois.
Hein. Mmh. On loue, ouais.
Des frais en plus, quoi.
Oui, voilà. Bon, on a un loyer fait par la mairie. C'est un local de la mairie. On aurait bien aimé que ça dure plus longtemps, parce qu'effectivement, nous, notre boutique, notre objectif, c'est d'avoir une boutique qui soit ouverte tout au long de l'année, pour valoriser l'artisanat local, mais pour dynamiser le territoire aussi. Pour l'instant, on n'a pu l'avoir que pour 2 mois. On espère, et on est né à la recherche d'un autre local, d'ailleurs au Pont de Montvert aussi, pour pouvoir continuer ce projet. Et en même temps, c'est une façon de nous tester un peu, voilà, pour 2 mois, donc ça c'est chouette. Et voilà.
Alors, tu as lancé une campagne de financement participatif. À quoi ça va servir ?
Alors, l'idée de ce financement participatif, c'est justement parce que sur ce terrain que j'ai récupéré à Racoul, où je mets les chèvres en été depuis l'année dernière, il n'y a pas d'abri. Et donc, elles sont soumises aux intempéries s'il y a. Bon, orage l'été, ça peut passer, mais quand même. À de la prédation. L'année dernière, j'ai un petit qui s'est fait, je pense, attraper par un renard. Et aussi, pour plein d'autres raisons, soigner des bêtes, c'est plus facile si on peut les contenir dans un endroit fermé. Enfin, voilà. Et en plus, c'est un endroit où j'aimerais pouvoir y laisser les mâles l'hiver. Donc, du coup, là, à partir du moment où c'est octobre, novembre, c'est bien d'avoir quand même un abri pour la pluie, pour le froid. Etc. Donc, c'est pour m'aider à construire cet abri, à l'aménager. Stocker l'eau, stocker du grain, avoir des panneaux solaires pour avoir un minimum d'électricité quand même en hiver, et puis refaire une clôture quand même assez haute pour les problèmes de prédation.
Il y a toujours une espèce de contrepartie hein, quand quelqu'un donne. On donne, alors, je crois que c'est en général c'est entre 5 et après ça peut monter. Quelles sont les contreparties toi que tu proposes ?
Alors il y a des contreparties, il y a des dons sans contrepartie et puis il y a des dons avec contrepartie. Donc c'est soit du fil à tricoter pour les fans de tricot, soit des articles de ma boutique. Donc ce qui marche super bien, c'est quand même la paire de chaussettes qui est hyper. Hyper connu, hyper apprécié, voilà, les bonnets, les gants, des plaids aussi, le parrainage de chevreaux avec des nouvelles tout au long de l'année, et puis aussi des dons sans contrepartie. Voilà.
On la retrouve où ce crowdfunding ?
Alors c'est sur la plateforme Mimosa, parce qu'ils sont spécialisés dans tout ce qui est domaine agricole et alimentaire. Et donc voilà, Mimosa, et c'est un abri pour les chèvres, et c'est Marie Calberg.
Je mettrai évidemment les liens sur notre site tout à l'heure. Et je me posais, donc tu parlais des soins, etc. Comment ça se passe au niveau vétérinaire ici ? Est-ce que c'est simple ? Parce qu'on est dans un désert médical, est-ce que ça se passe pareil pour les vétos ? Parce que je suppose que des fois, tu dois faire appel à un véto.
Le vétérinaire, bon, une chèvre, c'est pas comme une vache. Hein. Une chèvre, on peut le mettre dans le coffre de la voiture et si besoin, l'emmener chez le vétérinaire. Après, quand il y a des prises de sang sur tout le troupeau, le vétérinaire se déplace. Il y a des visites sanitaires une fois par an. Et puis, il y a beaucoup de coups de fil aussi avec des conseils. Et voilà, et moi j'ai fait des formations aussi avec la Chambre d'agriculture en homéopathie, parce que c'est super intéressant. Et puis j'essaye aussi au maximum de faire plus de la prévention que du soin. Là, je sais qu'après la tonte, je vais pouvoir les badigeonner de répulsifs aux huiles essentielles pour tout ce qui est tiques et parasites externes ou quoi que ce soit. Voilà. Je crois qu'il faut pas mal jouer avec ce qu'on a aussi dans la nature. Et après, y a des problèmes qui ne sont pas solvables, solvables par ces moyens. Donc voilà, après, il y a de la chimie.
C'est sûr. Merci beaucoup, Marie.
Mais de rien, Ben.
Et puis à la prochaine, c'était passionnant.
Super.